France Inter. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. C'est un dimanche chargé pour le Premier ministre François Bayrou, qui est en train de peaufiner sa DPG, sa déclaration de politique générale. Ce sera mardi, dans deux jours, à l'Assemblée, et il doit continuer à négocier un gel, une suspension, une abrogation de la réforme des retraites pour trouver un accord de non-censure avec les députés socialistes pour espérer, en échange, un peu plus de stabilité politique. Journée importante, donc, semaine déterminante. François Bayrou réussira-t-il à stopper la dynamique des censeurs de l'extrême gauche à l'extrême droite? Redonnera-t-il un espace politique à la gauche et à la droite classique? On en parle avec notre invitée, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle est ce dimanche dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, pour vous interviewer, l'équipe de choc, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour à toutes.
Et bonjour à Françoise Fressos du journal Le Monde.
Bonjour à toutes et tous.
On démarre avec les images de la semaine. Quelles sont les photos qui vous ont marqué dans l'actualité? Yaël Braun-Pivet, qu'est-ce qui vous a frappé, vous en particulier?
Alors moi, j'ai choisi une photo de Mark Zuckerberg qui a annoncé qu'il mettait fin à une certaine modération et au fast-checking sur Facebook et à la modération. Je trouve ça extrêmement inquiétant quand on sait l'importance que prennent aujourd'hui les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, dans le débat public, l'influence qu'ils peuvent avoir sur la fabrique des opinions publiques, qu'il y ait cette libéralisation complètement folle sur ces réseaux est particulièrement inquiétante pour nos démocraties en elles-mêmes. Et donc, on sait que l'Europe est extrêmement vigilante, que nous avons adopté un certain nombre de législations et que ces décisions, pour le moment, ne s'appliqueront pas sur le territoire européen, mais aux États-Unis. Mais en même temps, c'est une vraie alerte. Nous avons, nous, musclé notre législation, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on accentue et qu'on accélère sur les questions de souveraineté. Nous ne pouvons pas dépendre de ce type de réseau avec ces décisions qui sont très inquiétantes.
Alors Mark Zuckerberg, pardonnez-moi, le patron de Meta, qui a fait ça pour séduire à la fois Donald Trump, le nouveau président, et puis à ses côtés Elon Musk. Patron de X, beaucoup de personnalités, beaucoup d'institutions décident de quitter en ce moment, anciennement Twitter, désormais X. C'est votre cas, vous, ou pas?
Alors moi, je suis toujours sur Twitter. J'essaye d'être sur le maximum de réseaux sociaux, mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'alternative convaincante européenne en réseau social comme cela d'actualité. Donc basculer de Twitter à un autre réseau qui reste sous la domination américaine me semble pas être la panacée. Mmh. Et donc il faut absolument que l'Europe développe des réseaux sociaux souverains qui seraient régis avec nos règles et dont on aurait la maîtrise pour nos débats publics. C'est vraiment un enjeu démocratique.
Allez, autre image de la semaine, celle de Françoise. La disparition du fondateur du parti d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, vous a particulièrement intéressé. Dites-nous pourquoi.
Alors j'ai retenu surtout l'image d'hier, c'est-à-dire les obsèques privées qui ont eu lieu en Bretagne, à la Trinité-sur-Mer, et qui font au fond apparaître l'héritage Le Pen. Ce qu'a réussi sans doute le fondateur du Front National, c'est d'avoir transformé un nom en un clan, un clan en une marque, et une marque qui est quand même assez difficile à porter. Il est impopulaire, 7 Français sur 10 le rejettent, selon un sondage Odoxal Figaro. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les différents héritiers essayent de faire vivre la marque. La plus fidèle, curieusement, c'est celle qui a enlevé le nom Le Pen, c'est Marion Maréchal.
Qui est derrière sur la
énormément
photo.
Énormément. Qui est, on la voit sur la
derrière,
photo.
Derrière, devant, on a les trois filles.
C'est
Le
la
Pen.
Petite fille. Mmh. Et elle a repris l'héritage identitaire, la défense des racines chrétiennes, la grande peur du musulman, du grand remplacement. Mmh. Celle qui a le plus essayé d'être en rupture avec le père, c'est celle qui garde son nom. C'est évidemment Marine Le Pen. Et elle, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de gommer l'antigaullisme, de gommer l'antisémitisme, de gommer le racisme. Mais il y a quand même une structure commune entre toute cette famille, c'est au fond la préférence nationale, c'est-à-dire l'idéologie du rejet de l'autre, de la peur de l'étranger, de la peur de l'immigré. Et je trouve que c'est une idéologie très dangereuse qui reste quand même fondamentalement d'extrême droite parce qu'elle permet d'avoir un bouc émissaire au mot français, c'est-à-dire que si vous êtes en souffrance, c'est à cause de l'autre, et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux, et ça reste donc une marque très difficile à porter.
Votre réaction, Yael Braun-Pivet, à la disparition ?
Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Le Rassemblement National, quel que soit son nom, quel que soit son leader, reste en partie xénophobe, reste en partie de l'exclusion, et qui vise à dresser les Français les uns contre les autres, et donc il faut... quel que soit à nouveau son nom et son leader, toujours, toujours le combattre.
Le Premier ministre, François Bayrou, a parlé d'un combattant pour saluer sa mémoire. Erreur politique ou pas en utilisant ce mot-là ? Vous en avez pensé quoi, vous, la présidente de l'Assemblée nationale ?
D'une façon générale, c'est très difficile de saluer la mémoire d'un homme qui a été condamné à de multiples reprises, notamment pour antisémitisme. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, je n'ai pas communiqué sur les réseaux sociaux après le décès de Jean-Marie Le Pen.
Dernière question, il a été 9 ans député à l'Assemblée nationale. Il y aura un hommage, il y aura quelque chose ?
Il n'y a pas d'hommage particulier. Il peut y en avoir lorsque la personnalité qui disparaît a occupé une fonction éminente, ancien président de la République, ancien Premier ministre, ou alors un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions dans le cours de son mandat. Mais il n'est pas d'usage à l'Assemblée nationale qu'on honore la mémoire des députés disparus. En revanche, il est d'usage et je le ferai, je l'ai fait pour Jean-Marie Le Pen comme pour tous les autres députés, que l'Assemblée nationale fasse livrer une gerbe pour le décès des parlementaires. Il y en a malheureusement de façon très fréquente et donc là pour le coup je n'ai pas dérogé à cet usage-là.
Allez, dernière image. La vôtre, Nathalie, nouvelle passe d'armes entre la France et l'Algérie.
Nouvelle passe d'armes et vraie crise, puisque... Alors, il y a deux choses qui ont pu affleurer ou effleurer. C'est Bruno Retailleau qui a choisi de renvoyer sur ses terres natales un influenceur. Alors, un influenceur, c'est des gens qui disent des horreurs en disant en appelant à tuer les opposants au régime algérien, bon, qui prend des positions et qui incite parfois à la violence. Bon, ce monsieur Doualem a fait un aller-retour, puisque l'Algérie a ostensiblement refusé de le récupérer. Donc il est pour l'instant dans un centre de rétention administrative. Il y a eu également les prises de position de Gabriel Attal pour la révision des accords de 68 qui, en gros, donnent un statut particulier à l'Algérie, eu égard l'histoire. Mais indépendamment de tout ça, qui peut être un peu d'instrumentalisation, une façon de montrer qu'on est plus capable que celui d'avant, je trouve ça absolument étonnant qu'on ne soit pas capable, sachant quand même que les accords d'Évian et la fin de la guerre d'Algérie étaient en 62, de remettre les choses à plat. C'est-à-dire, oui, on a le droit de considérer que le Sahara occidental est une zone d'influence marocaine. Oui, on a le droit d'avoir des rapports sains avec l'Algérie. On a ouvert une partie de nos archives. Ils n'ont toujours pas accepté d'ouvrir les leurs. On a reconnu la torture en Algérie. On a reconnu des crimes, peut-être pas contre l'humanité, comme l'avait dit Emmanuel Macron, mais des crimes qui étaient des choses importantes. Donc, par pitié, oui, on peut réviser les accords de 68, quitte à les laisser intacts. On peut se demander, ça a déjà été fait 3 fois, et il serait sain quand même que... Sans dire riposter, comme dit Jean-Noël Barrot, ou dire c'est un camouflet, dire simplement que c'est un régime dictatorial, qui n'est pas démocratique, qui n'est pas un régime super pauvre, puisqu'ils ont du gaz et du pétrole et qui pourrait très bien se développer. Oui, on peut les aider, oui, on peut faire des choses particulières, parce que c'est la première source d'immigration du Maghreb, mais par pitié, il n'y a pas de raison que la fameuse rente mémorielle, comme disait Emmanuel Macron, ou la culpabilité de l'ex-colon, fasse en sorte qu'on ne puisse plus discuter des choses qu'on ferait avec n'importe quel état du monde. Et si Voltaire était vivant, ça fait un petit moment qu'il n'est plus là, je pense que l'incarcération de Boualem Sansal serait un problème en disant que c'est inqualifiable et qu'on se foute complètement qu'il ait donné une interview quelque part ou ailleurs et que la seule solution pour râler contre ça, c'est de considérer qu'il est d'extrême droite. Il ne l'est pas. Et encore le serait-il. Est-ce qu'on a le droit d'aller en prison parce qu'on a dit des choses qu'on pensait ?
Vous êtes d'accord
Pas grand-chose à ajouter. Moi, je suis entièrement d'accord.
Il faut calmer le jeu, là, ou pas, quand même ?
En tout cas, il ne faut pas que les relations avec l'Algérie, avec le peuple algérien, elles sont plus grandes que ce qui se passe en ce moment. Et donc, je pense qu'il faut être aussi conscient de cette histoire, des liens qui nous unissent, faire en sorte que effectivement nous puissions revisiter les choses. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un tabou particulier. Et donc, les accords, vous l'avez rappelé, ont déjà été révisés 3 fois. Donc, rien n'empêche de les réviser une 4e fois
en tenant compte de ces situations. Vous, vous y êtes favorable, mais il faudrait les dénoncer, ces accords de 68.
Non, dénoncer et réviser, ça n'est pas pareil. Ça n'est pas du tout la même chose. Moi, je pense en tout cas que nous devons avoir des relations adultes. Comme vous l'avez dit aussi, nous avons avancé sur le plan mémoriel. Le président de la République s'est rendu en Algérie. Nous avons avancé sous l'égide de Benjamin Stora aussi sur un certain nombre de points. Et donc, il faut que ça soit évidemment dans les deux sens. Après, sur le refus d'accueillir sur leur sol un ressortissant, là, ça n'est pas une question de relations franco-algériennes. C'est simplement l'application du droit international pur et simple. Un État ne peut pas refuser d'accueillir sur son sol son ressortissant. Ça, c'est le béaba des relations internationales, quel que soit le pays en cause. Et donc, ils doivent accueillir leur ressortissant quand il fait l'objet d'une expulsion sur le territoire national. En France, en tout cas, cet individu est un désirable et c'est notre choix et c'est notre droit à appliquer. Et donc, l'Algérie doit reprendre son ressortissant. Ça, pour moi, c'est une évidence.
Est-ce que, malgré tout, les propos de Bruno Retailleau, Nathalie en a parlé d'un mot, extrêmement inflexible, extrêmement sévère, est-ce que ça a mis de l'huile sur le feu ou pas? Est-ce que c'était la bonne tonalité à avoir?
Écoutez, moi, je ne suis pas commentatrice des propos des uns et des autres. Ce que je sais, c'est qu'il faut avoir un dialogue très exigeant et avec l'Algérie, qu'il faut, j'ai entendu aussi que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, était tout à fait prêt à rencontrer son homologue pour mettre les choses sur la table. Moi également, je suis prête à rencontrer mon homologue. Je viens de rentrer il y a quelques semaines de cela du Maroc, où j'ai eu des échanges extrêmement fructueux avec mon homologue, avec le ministre des Affaires étrangères. C'était plus facile, mais vous savez que je ne recule pas devant la difficulté. Moi, je crois au dialogue, quoi qu'il arrive, et donc il faut qu'on renoue le fil. Il y a bien trop de nos compatriotes qui ont un lien très attaché avec l'Algérie. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas non plus.
Nous, on est tous inquiets, quoi. Et maintenant, si on attaque juste un petit truc, il y a un petit vent ou un truc comme ça, tout le monde n'est pas tranquille, quoi.
On ne sait pas, même si on nous dit 100 km à l'heure, mais là, on ne sait pas.
On a peur. Du coup, on achète pour qu'on soit sûr qu'il y a quelque chose à la maison.
Les témoignages de Mahorais, Mayotte, 101e département français qui n'est toujours pas remis du passage de l'ouragan Chido il y a presque un mois maintenant et qui affronte ce week-end une nouvelle tempête avec des pluies torrentielles. Vous vous êtes rendu sur place cette semaine, Yael Braun-Pivet, après Emmanuel Macron qui est allé le premier, après François Bayrou également et juste après Marine Le Pen. C'était donc à votre tour de constater les dégâts, d'observer la lenteur de la réorganisation, la lenteur de la reconstruction de cette île. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, Yael Braun-Pivet, quand vous êtes retrouvée sur place, quand vous êtes arrivée?
Alors moi, c'était mon 3e déplacement à Mayotte. J'y étais il y a tout pile un an pour le début de l'année 2024 et j'avais fait mes premiers vœux de l'année 2024 à Mamoudzou, avec le maire de Mamoudzou. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais retourner sur ce territoire de la République martyrisé par ce qui s'est passé par le cyclone Chido. La première chose qui m'a frappée, c'est que c'est très visuel. C'est que vous avez tous les arbres, toutes les forêts sont par terre, sont décimées. Ça révèle également l'ampleur des bidonvilles qui étaient parfois masquées par la végétation et qui là sont à nu. Et donc sur les collines, vous pouvez voir cette pauvreté aussi et cet habitat illégal qui vous saute au visage. Ce qui m'a frappé ensuite, ce sont les échanges que j'ai pu avoir avec les très nombreux habitants que j'ai rencontrés. Moi, j'ai sillonné l'île du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je me suis beaucoup arrêtée. J'ai fait des réunions improvisées avec les habitants dans les rues, sur les places, devant les mairies. Ils sont très résilients. Ils sont très courageux, ils se sont
retroussé
les manches parce que ils ont participé avec les secours, avec nos militaires mobilisés, avec notre sécurité civile au redressement de Mayotte, et ils ont nettoyé les écoles, les rues, etc. pour pouvoir retrouver de la libre circulation, pour permettre, je l'espère, une rentrée scolaire bientôt. Et ils sont parfois en colère. Parce que, eh bien, il y a des réseaux qui n'ont pas tenu. L'électricité était par terre. Mais ça veut dire que, très concrètement, moi, c'est des poteaux électriques qui sont au sol, c'est des câbles électriques qui sont coupés. L'État a dépêché plus de 200 agents d'Électricité de France pour pouvoir remettre les réseaux en circulation. Et il y a évidemment encore des zones où il n'y a pas d'électricité.
Pourquoi il manque encore de l'électricité? Qu'est-ce qui est compliqué, en fait? Pourquoi ça n'avance pas?
Techniquement, c'est compliqué parce que, par exemple, sur des villes du Nord, les agents d'électricité ont voulu, et je crois qu'ils ont raison, compte tenu des nouveaux événements climatiques qui arrivent, procéder à l'enfouissement d'un certain nombre de réseaux qu'ils ont rétablis. Et ben, moi, je les ai vus au bord des routes, en train de creuser les tranchées pour enterrer les câbles, pour faire en sorte qu'au prochain cyclone ou au prochain événement climatique, l'électricité tienne. Après, vous savez, comme moi, chaque maison est différente, et ce qui est difficile, c'est même pas ce qu'on se disait, c'est pas le dernier kilomètre, c'est même pas les derniers 100 mètres, c'est les derniers 10 mètres, c'est les derniers mètres. Et donc, évidemment que partout sur l'île, vous avez encore des citoyens qui n'ont pas l'électricité rétablie, mais la grande majorité de l'électricité est rétablie. Je peux vous dire qu'ils ne ménagent pas leur peine. Sur l'eau, on est revenu à la situation d'avant. Et donc, en fait, oui, elle n'est pas satisfaisante parce qu'on a ce qu'on appelle des tours d'eau. Et donc, vous n'avez pas de l'eau au quotidien au robinet, mais vous n'en aviez pas avant non plus, avant le cyclone Chido. Donc là, on est revenu exactement au niveau d'avant. Ça n'est pas satisfaisant non plus. Mais maintenant, ce qui est devant nous, c'est la reconstruction de Mayotte. Et ce que tout le monde dit, c'est qu'il ne faut pas reconstruire Mayotte comme avant. Alors, puisque avant, ça n'était pas satisfaisant.
Françoise.
Le gros sujet, c'est, au fond, est-ce qu'on reconstruit avant d'avoir conclu un accord sur l'immigration? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce qu'il faut remettre en cause un certain nombre de données, notamment le droit du sol?
Alors, d'une part, il faut évidemment reconstruire tout de suite. Parce que reconstruire, c'est mettre un toit sur la tête de familles qui n'en ont pas aujourd'hui. C'est leur redonner l'accès à l'électricité. L'électricité, c'est pas seulement la lumière, c'est le frigo. C'est le moyen d'entretenir, de cuisiner, etc. Donc, il faut pallier aux besoins essentiels de la population immédiatement. Et c'est d'ailleurs l'objet du projet de loi d'urgence pour Mayotte qui va être examiné dès demain en commission et la semaine prochaine dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Permettre la reconstruction rapide, raccourcir les délais, s'affranchir d'un certain nombre de procédures pour reconstruire Mayotte immédiatement. Après, il y a, quand on dit il ne faut pas faire comme avant, il y a évidemment cette question migratoire qu'il faut regarder en face. Et donc, il y a la question de la régularisation principalement des Comoriens, et c'est pour cette raison que certains préconisent de supprimer à 100% le droit du sol. Et moi, je n'ai jamais été favorable à cela.
Alors,
moi,
si
je considère
quoi,
qu'il faut. C'est un département français, et sur un département français, le droit de la nationalité, en ce qu'il est vraiment consubstantiel de ce qu'est une nation, doit s'appliquer de la même façon. En revanche, je pense qu'il faut aller plus loin sur l'accession à la nationalité. Vous savez que nous avions adopté un amendement qui émanait du sénateur Tani dans la loi Asile et Immigration qui avait été portée en son temps par Gérard Collomb. Cet amendement prévoyait que pour accéder à la nationalité, il fallait qu'un enfant né sur le sol de Mayotte ait un de ses parents en situation régulière depuis 3 mois. Il y a des propositions qui permettraient d'allonger ce délai, de passer de 3 mois à 1 an, et de surtout, et c'est ça qui me paraît très important, de passer d'un à 2 parents. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le critère d'un parent a permis le développement d'une fraude documentaire à la reconnaissance de paternité. On a des hommes qui reconnaissent 30, 40, 50 enfants à Mayotte. Ça n'est pas possible. Donc moi, je suis favorable à un durcissement très conséquent, unique sur le territoire de la République, mais pas à la suppression
intégrale du
droit du sol.
Mais on a déjà durci et ça n'a servi à rien.
Mais pas suffisamment. Après, ce que j'allais dire, c'est que, vous savez, sur ce type de sujet, il ne suffit pas de modifier la loi. C'est important, mais ça ne suffira pas. Donc il faut
de la surveillance, des contrôles,
il
la présence.
Il faut qu'on augmente les contrôles. Mmh. Il faut augmenter la présence des radars, de la puissance des radars, des capacités d'interception, des fameux quoi ça, des contrôles sur le territoire. Et là, moi, j'ai beaucoup échangé avec les militaires, avec la gendarmerie maritime. On a un moyen de lutter de façon beaucoup plus efficace contre l'immigration illégale. Il faut y aller tout de suite. Ça aussi, c'est une grande urgence parce que si on veut reconstruire Mayotte de façon beaucoup plus pérenne et durable et prospère, parce qu'il s'agit de donner un avenir à Mayotte, il faut pouvoir lutter vraiment efficacement contre l'immigration illégale.
Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire pression aussi sur les Comores qui jouent vraiment, j'allais dire une grossièreté, mais qui jouent vraiment avec le feu, c'est pas en laissant partir, en poussant à partir. Alors on sait que le PIB des Comores, c'est...
Non mais on peut le rappeler quand même, le PIB, c'est intéressant.
C'est de 1,6, je crois.
Voilà, c'est 9 000 euros.
9 000 euros et 700 voilà, aux Comores, donc plus que d'un 1,6, mais que les autorités comoriennes, en gros, ne font rien pour empêcher les déferlantes de...
Et il faut évidemment continuer ce dialogue diplomatique exigeant. Mais c'est pour ça que, en fait, il y a vraiment cette action diplomatique à mener, une action résolue des services de sécurité pour tenir la frontière de Mayotte, et une action législative pour rendre beaucoup moins attractive l'accouchement à Mayotte et la présence à Mayotte. Et c'est en luttant sur tous ces aspects qu'on réussira à donner un avenir à ce territoire de la République, sur lequel je voudrais quand même dire qu'il y a un sous-investissement massif de l'État français depuis des dizaines d'années à Mayotte. Et ça suffit. Il y a une égalité républicaine que nous devons, en tant qu'hommes et femmes politiques, faire respecter partout sur le territoire
François
national.
François, il ne faut pas échapper qu'on est en situation de gros déficit budgétaire. Ça va coûter cher, la reconstruction à Mayotte. Est-ce qu'on est sûr d'avoir les fonds nécessaires et comment on peut faire ça en 2 ans de façon efficace?
Mais vous savez, la politique, c'est faire des choix. Construire un budget, c'est faire des choix budgétaires. Et Mayotte ne doit pas être la victime de ces choix budgétaires. C'est un département français à part entière. Et je ne vois pas pourquoi on se poserait la question pour Mayotte alors qu'on ne se la poserait pas pour la Corrèze, pour la Lozère ou pour la Meurthe-et-Moselle.
Juste une question très précise. On parlait donc, enfin, on vous a entendu vraiment très clairement sur le durcissement sur le droit du sol. On doit l'inclure dans la loi spéciale qui va concerner Mayotte ou pas?
Alors non, c'est la loi spéciale, c'est vraiment une loi d'urgence qui facilite la reconstruction. Mais il y a une proposition de loi qui vient début février à l'initiative du groupe Droite Républicaine qui prévoit ce durcissement et qui va être la première inscrite à l'ordre du jour le 6 février prochain dans leur journée réservée. Donc c'est un sujet qui pourra être examiné à part. Et puis, il y a une loi Mayotte qui doit intervenir. Ça fait plusieurs mois, voire années, qu'on parle d'une loi Mayotte, parce qu'il y a d'autres sujets à régler que ces sujets d'urgence. Et donc, le ministre des Outre-mer devrait présenter prochainement aussi, en Conseil des ministres et au Parlement, une loi Mayotte. Donc, normalement, nous devrions avoir au moins 3 textes qui viennent sur Mayotte pour aider les Mahorais. Ils ont besoin de la solidarité nationale.
Allez, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, est notre invitée ce dimanche dans Questions politiques. La semaine qui vient est une semaine importante pour François Bayrou. Un mois après sa nomination, le Premier ministre va enfin tenir son discours de politique générale, c'est-à-dire esquisser les grandes lignes de son projet politique dans la situation de crise institutionnelle, financière, budgétaire qu'on connaît évidemment aujourd'hui. Les députés insoumis ont déjà annoncé qu'ils déposeraient une motion de censure à l'issue de ce discours, mardi. Reste à savoir qui la votera. Pour l'instant, les socialistes, les écologistes et les communistes ont négocié toute la semaine avec Bercy, avec Matignon. Au centre des discussions, la réforme des retraites. Faut-il l'abroger? Faut-il la suspendre? Faut-il la geler? Je voudrais vous faire écouter le président des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. Il était vendredi matin dans la matinale de France Info.
Aujourd'hui, nous disons oui à M. Bayrou sur sa proposition de revenir dans une négociation globale avec les formations politiques, les syndicats, le patronat, et aboutir, il l'a ramené le délai à 6 mois. Une négociation de 6 mois qui pourrait commencer très vite s'il n'y a pas de censure après la déclaration de politique générale.
Et donc pour une suspension, un gel?
Et donc, pendant ce temps-là, nous demandons une suspension, ou l'équivalent d'une suspension, en tout cas un signe fort qui montre qu'on peut rentrer dans une négociation avec le symbole de cette suspension qui permettrait de dire, mais le statu quo ne pourra pas rester le même.
Voilà, et à l'instant, donc Patrick Kanner, je le disais, sénateur, et à l'instant, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, vient de s'exprimer. Il considère que le compte n'y est pas, qu'en l'état, il voterait la censure. Votre réaction, Yael Braun-Pivet, est-ce qu'il faut accepter de suspendre tout simplement cette réforme des retraites
d'abord,
en 2023
je voudrais d'abord saluer la méthode qui est la reprise du dialogue avec les différentes forces politiques. Et je voudrais saluer l'esprit de responsabilité de la plupart d'entre elles qui ont accepté d'une part de venir dialoguer et qui acceptent de rentrer dans une discussion constructive pour doter la France d'un budget. C'est quand même la priorité au-delà des retraites. Nous avons besoin d'un budget, nous avons besoin d'avoir des grandes orientations financières, nous ne pouvons plus attendre. La censure du gouvernement Barnier a fait que nous avons aujourd'hui, nous sommes en janvier, nous n'en avons pas. Donc ça, c'est la priorité des priorités, doter la France d'un budget. Et vraiment, je salue l'esprit de responsabilité de chacun pour y parvenir. Après, la question des retraites. Fondamentalement, les retraites, le sujet des retraites ne figure pas dans le budget. Donc, il faut quand même rappeler que les discussions autour du budget doivent s'inscrire dans le cadre budgétaire pour parvenir à un accord.
Mais dans le cadre d'un pacte de non-censure,
sur un pacte plus large de non-censure, moi je considère que cette réforme des retraites, il fallait la faire, nous en avons besoin. Nous n'arrêtons pas parler du budget de la France et l'on sait que le plus grand poste de dépenses publiques, c'est le paiement des retraites, et donc nous ne pouvons pas mettre ce sujet de côté. En revanche, comme d'autres, je vois bien que cette réforme est injuste, que un certain nombre de publics continuent à avoir des effets très délétères. Moi, j'ai regardé à nouveau ce matin, j'ai été frappée par le fait que aujourd'hui, vous avez plus de 50% des femmes qui touchent moins de 1 000 euros de retraite. Moins de 1 000 euros de retraite, 50% des femmes, alors que cela concerne 20% des hommes. Donc, il y a un vrai sujet autour des carrières longues, il y a de la pénibilité, mais surtout des carrières des femmes. Et donc, il faut s'attaquer à tout cela, il faut en rediscuter avec les partenaires sociaux, avec les forces politiques. Si nous parvenons à avoir un système qui permet de beaucoup mieux corriger ces inégalités-là, mais attendez, moi je signe tout de suite. Et donc si tout le monde retourne à la table, je sais que c'est un peu compliqué, plus compliqué, mais... Vous comprenez bien le sens de mon propos.
Oui, on a compris. Parfaitement, c'est bien parce que tout le monde est d'accord sur les carrières longues, tout le monde est d'accord sur la pénibilité, et tout le monde est d'accord sur les femmes. Ok, il y a personne qui viendra dire quelque chose. Deux points. Le premier sur la forme. Ce matin, Gérard Larcher, aidé hier soir, a continué à dire, ni suspension, ni abrogation. C'est-à-dire, en gros, dans la symbolique et dans les faits, il faudrait dire. Il ne faut pas que le mot suspension arrive, même si c'est une suspension de 6 mois, de 1 an, même si ça ne s'applique qu'à ceux qui vont rentrer dans 1 mois dans le système. À quoi il joue ? Vous le connaissez très bien.
Ouais.
C'est pour ça que je vous demande à quoi il joue et que je ne passe pas directement par lui. Est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce qu'il risque de servir d'épouvantail, si j'ose dire, aux socialistes ? Est-ce que tout ça, c'est un cirque, un jeu organisé entre la gauche et la droite pour s'organiser, pour se mettre d'accord à la fin ?
Nathalie.
On peut se demander.
Je suis d'accord
avec vous. Il y a Faure qui dit, si on négocie pas encore, on vote la censure. L'autre qui dit... est-ce que sur le fond, et est-ce que finalement, il faut s'attacher aux mots ou qu'il peut y avoir un petit geste, quelque chose de fait, même temporairement, sur les 64 ans.
J'ai envie de vous dire que...
Soyez clair.
Je suis toujours très claire. Je ne veux pas justement qu'on s'attache aux mots. Parce que franchement, ce qui est important, c'est si on arrive, à remettre tout le monde autour de la table sur la réforme des retraites. Deux, qu'on arrive à une réforme qui nous permette le rétablissement de l'équilibre du système et de corriger les inégalités. Alors ça, eh bien oui, c'est le Graal. Et donc, nous ne pouvons pas, quand on fait de la politique, refuser de se remettre à la table des discussions pour essayer d'atteindre ce fameux Graal.
Mais vous savez que les mots sont importants en politique.
Alors moi, je pense pas qu'il faille abroger la réforme des retraites avant de se retourner. Ça, c'est complètement absurde.
Mais
c'est complètement absurde parce que, aussi, ça nuit à la crédibilité de la parole de la France. Regardez nos voisins européens. Regardez les âges de retraite des pays avoisinants.
Merci,
et on
ne
va pas revenir en arrière.
D'accord. Pas d'abrogation, mais
pas d'abrogation.
Suspension.
Il faut regarder ce que ça signifie parce que, en fait, il faut regarder très concrètement.
Mais suspension, ça veut dire qu'on arrête et qu'on rediscute. Est-ce que ça vous convient ou pas, Yael Braun-Pivet?
Moi, ce qui me convient, c'est qu'on rediscute. Après, si il faut arrêter pour rediscuter avec un cycle très court de discussion, moi, je n'y suis pas opposée par principe. Mais ce que je veux dans ces cas-là, c'est que vraiment, on soit d'accord pour mettre vraiment les choses sur la table pendant ces 6 mois de discussion et que on s'engage tous à
que ça
discuter
se termine par une réforme.
Est-ce voilà que réellement trouvez... et pas et qu'on sorte des postures.
Est-ce que trouvez que les socialistes justement jouent un petit peu font un peu de chantage et que, est-ce que vous les trouvez mûrs par rapport aux syndicats? Je m'explique. La lettre du 17 décembre écrite par tous les syndicats hormis la CGT disait s'il vous plaît stabilité, sérénité, visibilité. Est-ce que là quand on entend encore Olivier Faure menacer à tout moment de quitter la table alors qu'Éric Lombard fait des avancées manifestement, est-ce que vous trouvez que la classe politique est en dessous de ce qu'elle devrait être?
Mais c'est bien pour ça que j'ai commencé ma réponse sur le sujet en distinguant les deux sujets, le budget et la réforme des retraites. Il ne faut pas mêler les deux. La priorité, c'est le budget. Et là, effectivement, il y a une nouvelle méthode, un esprit de responsabilité de chacun. Et nous devons, nous pouvons trouver un accord sur le budget. La question des retraites, c'est à part. Ça n'est pas le même sujet. Et il ne faut pas, effectivement, mêler les deux et se servir de la réforme des retraites comme levier de négociation sur le budget. La France a besoin d'un budget. Vite.
Mais on va en parler du budget. La question, malgré tout, de la réforme des retraites est centrale puisque c'est grâce à cet accord que on retrouvera peut-être de la stabilité politique, en tout cas moins de censure. Pourquoi est-ce qu'il vous est, à vous, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, aussi difficile de prononcer le mot de suspension? Pourquoi c'est pas possible?
Alors, je pense que vous ne m'avez pas écouté, puisque j'ai dit au contraire
très rapidement,
que...
Très rapidement. Mais on sent que suspension, c'est compliqué, mais vous ne voulez pas vous aventurer sur ce chemin-là.
Alors,
pourquoi?
D'une part, parce que cette réforme des retraites, moi, je l'ai portée, et je l'ai votée, et je considère qu'il fallait la faire en responsabilité. Et j'ai fait partie des personnes qui ont conseillé au président de la République de passer par un 49-3 pour faire que ce texte soit adopté, parce que je pense que nous en avions besoin. Et donc, je ne voudrais pas que l'on revienne en arrière, parce que je suis convaincue qu'il fallait s'attaquer à cette difficulté. Maintenant, je suis tout autant convaincue qu'il ne s'agit pas d'une réforme parfaite. Ça aurait été une réforme parfaite. Eh bien, j'aurais dit, à coup sûr, ni abrogation, ni suspension. Mais on voit bien, on en parle souvent, pénibilité, retraite des femmes, etc., elle n'est pas parfaite. Et nous ne pouvons pas faire peser sur les générations futures ce système par répartition dont on voit qu'il est structurellement déficitaire. Et donc, je considère en responsabilité, en tant que femme politique, et aussi en tant que mère de famille, et aussi en tant que femme, tout simplement, que nous n'avons pas tout réglé, qu'il y a beaucoup de sujets à discuter encore. Et donc, si nous pouvons aujourd'hui nous mettre autour d'une table tous les acteurs concernés pour discuter de ces sujets, eh bien, c'est d'utilité publique.
Mais elle peut valer ça, Elisabeth Borne ? Excusez-moi, non, c'est ma dernière question. Elle a porté une réforme, elle s'est défendue, elle nous a vendu que c'était mieux pour les femmes, mieux pour tout le monde. Alors en fait, qu'on est en train de dire le contraire.
Qu'elle soit restée au gouvernement ou pas, si jamais.
Mais écoutez, vous lui poserez la question.
Non, ça...
moi, en tout cas, je regarde les choses de façon lucide et pragmatique. C'est ce que j'essaye toujours de faire quand je fais de la politique.
Et sur cette question de la réforme des retraites, où vous êtes là, effectivement, très très clair sur la mesure d'âge. Dans la presse ce matin, on comprend que François Bayrou, le Premier ministre, hésite à éventuellement bouger ce curseur. Est-ce qu'on peut revenir sur l'âge de 64 ans?
Ben moi, je n'y suis pas favorable parce que, à nouveau, je considère qu'il fallait que l'on fasse cette réforme et qu'on prenne cette mesure d'âge. Après, cette mesure d'âge pose un énorme problème, c'est que nous avons un problème d'emploi des seniors. Et que à partir de 55 ans, nous avons un taux d'emploi des seniors qui est absolument catastrophique par rapport à nos voisins, et que nous aurons beau reculer l'âge de la retraite, si nous n'arrivons pas à augmenter la durée réelle de travail des Français, ça n'ira pas et ça ne réglera pas la question. Donc vous voyez, il faut vraiment que tous, on se réattaque à ces sujets-là.
Allez, on passe au budget et je passe la main à Françoise Fressoz.
Alors, sur le budget, il y a quelques postes en discussion, notamment les suppressions de postes dans l'éducation nationale, 4000 postes supprimés. Est-ce qu'on peut renégocier ça? Est-ce que vous y êtes favorable?
De toute façon, moi, par principe, je suis favorable à la négociation, déjà. Donc, il n'y a pas de tabou quand on se met à la table des négociations. Il fallait fixer une trajectoire de baisse des dépenses publiques. C'est ce qu'avait fait Michel Barnier, c'est ce que fait François Bayrou et Éric Lombard. Après, il faut regarder comment cela s'équilibre. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on ait une hausse de la fiscalité de façon à rendre l'effort plus juste au niveau des Français et une baisse de dépenses importantes. Moi, ce qui m'importe, c'est cette négociation aujourd'hui au niveau du budget, mais c'est surtout, et c'est ce que j'attends aussi du discours de politique générale du Premier ministre, c'est quelle est la trajectoire future. C'est que si l'on veut baisser structurellement les dépenses publiques dans notre pays, il faut faire des réformes de fond. Et donc, quelles sont les réformes de fond envisagées par le Premier ministre pour arriver à une baisse durable des dépenses.
D'accord. Sur l'éducation nationale.
Sur les 4000 postes supprimés.
Sur les 4000 postes supprimés. Moi, j'ai toujours été pour dire que la priorité des priorités dans notre pays, c'était notre jeunesse. Et donc, c'est leur éducation et leur formation. Et il ne me semble pas, lorsque je me déplace sur tout le territoire national et le territoire d'outre-mer, notamment à Mayotte, qu'on soit en surplus de nombre de professeurs. Donc, moi, je considère que l'on peut regarder ça de très près.
Pourquoi les garder,
et que il faut regarder. Après, moi, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, donc je ne connais pas finement ce qui a conduit à faire réaliser cette baisse-là. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas sacrifier nos enfants. Et donc, il faut préserver notre capacité à leur fournir un enseignement de qualité.
Est-ce que vous êtes favorable ou vous partagez le diagnostic d'Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances, voire de François Bayrou, qui est qu'il faudrait peut-être un peu plus prendre son temps. C'est-à-dire qu'on est passé d'un retour à un déficit de 5% du PIB à un 5,4, on nous a dit en dessous de 5,5. Et donc, en gros, au lieu de se prendre tout d'un seul coup, parce qu'on n'a pas fait avant, pour faire vulgaire et rapide, est-ce qu'on doit un peu plus s'étaler, quitte à être pas dans les clous européens tout de suite, parce qu'on ne peut pas faire autrement, sans risque d'avoir le pays qui explose.
De toute façon, d'une part, la situation a un petit peu changé par rapport à celle qu'a connue Michel Barnier, puisque nous n'avons pas voté de budget. Et donc, un certain nombre de dispositifs qui étaient là, soit pour augmenter les recettes, soit pour baisser les dépenses, n'ont pas été adoptés. Et en plus, les perspectives de croissance ont baissé. Et donc, il est fondamental de ne pas casser le peu de croissance que nous avons. Et donc, la réduction, effectivement, de la trajectoire me semble être une bonne chose, parce que il est très important que cette petite croissance que nous avons puisse perdurer. Nous avons nos voisins qui sont en récession. Et donc, on voit bien à quel point tout cela est fragile. Donc, faisons très attention. Et donc, mais c'est ce que fait le ministre de l'économie et des finances.
Vous avez dit une petite chose très intéressante. Vous avez dit
seulement une petite chose.
Non, surtout pas. Mais dans le cadre de la discussion là qu'on a sur le budget, vous avez dit voilà, il va falloir qu'il soit adopté très rapidement.
Ouais.
Ça veut dire quoi?
Mais j'ai toujours plaidé également pour qu'on reprenne le budget tel que ce qui va être le cas. Donc les discussions vont reprendre au Sénat dès la semaine qui s'ouvre, et j'espère que sur ce point nous aurons ce qu'on appelle cette commission mixte paritaire conclusive, 7 députés, 7 sénateurs qui se réunissent pour se mettre d'accord.
Vous pensez qu'on peut faire l'économie d'une discussion en séance publique, et que ça pourrait se faire en commission mixte paritaire?
En fait, il y a déjà eu une discussion en séance publique à l'Assemblée nationale. La discussion en séance
publique les députés
n'ont pas débattu, parce qu'ils ont rejeté ce qu'on appelle la partie 1. Partie 1, c'est les recettes.
Législation a changé. On a un nouveau gouvernement.
Oui, mais dans ce cas-là, si nous voulions faire que les députés rediscutent, il faudrait déjà qu'ils rediscutent de l'ensemble du budget, la partie recettes et la partie dépenses. Il faudrait que ce soit dans le cadre d'un nouveau budget déposé, ce qui nous ferait perdre des semaines et des semaines, et je ne pense pas que ce soit une bonne piste, ou alors considérer que la commission mixte paritaire doit échouer pour revenir de façon un peu artificielle en nouvelle lecture. Moi, je pense que ça n'est pas de bonne méthode. En tout cas, comme d'habitude, il faut rechercher l'accord à tout prix. Si nous parvenons à un accord en commission mixte paritaire, je m'en satisferai,
évidemment. C'est pas important, évidemment. Là, de refaire les choses calmement, de perdre peut-être un peu de temps, mais de vraiment faire en sorte qu'il y ait un consensus sur ce budget, qu'on réussisse
mais
à avancer.
C'est ce qu'on peut avoir, ce consensus,
avec
là,
la commission mixte
dans
paritaire
dans les discussions qui ont lieu en ce moment, dans les débats au Sénat, dans la commission mixte paritaire. Mais en tout cas, ce qui est urgent, c'est d'avoir un budget. Moi, je ne suis pas
urgent,
pour partir pendant des mois sur des discussions
budgétaires. Adoption en février ?
Potentiellement, si il y a une commission mixte paritaire qui se réunit fin janvier, c'est ce qui serait le cas, discussion au Sénat, puis commission mixte paritaire fin janvier. Si députés et sénateurs se mettent d'accord, il pourrait y avoir une adoption de ce budget dès la fin janvier ou début février. C'est ce qu'on doit tous souhaiter. C'est ultra rapide,
enfin,
oui
temps,
et non,
on a
parce
pas de
que
budget, mais...
ce budget aurait dû être adopté en décembre. Donc, en fait, chaque jour qui passe est un jour de trop.
Il y a des sujets importants en discussion, notamment sur la fiscalité du patrimoine, où visiblement il y a une réflexion qui avait été exclue chez les macronistes jusqu'à présent, qui est essayer de taxer un peu les riches, mais au niveau de leur patrimoine plutôt que leurs revenus. Est-ce que vous seriez philosophiquement pour, ou vous dites non, c'est trop dangereux, ça remet en cause la politique de l'offre?
Alors, deux choses. Il faut évidemment pas remettre en cause la politique de l'offre qui a produit ses effets positifs, qui a rendu la France pays le plus attractif d'Europe et qui nous a permis de créer 2 millions d'emplois. Donc même s'il y a des points noirs dans le bilan que nous pouvons avoir, nous avons aussi des points qui sont extrêmement favorables, et donc cela, il ne faut pas s'y attaquer. Donc pas de remise en cause de la politique de l'offre. En revanche, une fiscalité qui soit plus juste, plus équitable, l'effort mieux réparti, y compris sur les patrimoines, moi ça ne me choque pas.
Flat tax, on y touche ou pas?
On peut regarder. Moi, ça me choque pas à nouveau. Vraiment pas de tabou sur ces sujets, autrement on n'y arrivera pas. Si vous arrivez dans une discussion et que tout est fermé, la discussion s'arrête très rapidement.
Classe moyenne, alors je parle là aussi de ce qui peut être d'autres formes d'impôts sur le revenu, pas simplement OSF. Classe moyenne, on touche pas. C'est quoi classe moyenne à peu près pour vous? Mais les autres, on peut foncer un peu plus que ce qui a été prévu Michel Barnier.
On peut forcer un peu, évidemment. Ils nous le disent beaucoup qu'ils sont capables de participer à l'effort national et l'effort collectif. Classe moyenne, évidemment, il faut les préserver. Il faut préserver. Ce sont des gens qui sont extrêmement méritants, qui sont et on l'a vu avec les difficultés de pouvoir d'achat, de hausse des prix de l'énergie, etc. Parfois dans la difficulté, la crise du logement, etc. Donc faisons attention à ce qui constitue le cœur des citoyens de notre pays.
Un petit mot pour finir sur la déclaration de politique générale que va présenter François Bayrou, le Premier ministre, là mardi. Là on parlait du budget, donc je reviens sur la déclaration de politique générale. On imagine qu'il va avancer sur un certain nombre de sujets, institutionnels notamment, je pense à la proportionnelle, je pense au cumul des mandats, je pense aussi au référendum. Sur le cumul des mandats, vous avez changé votre... Vous êtes toujours farouchement opposée.
Vous savez, moi, j'essaye d'être cohérente dans les positions que je défends, et j'ai toujours défendu le non-cumul des mandats. Donc là, je suis extrêmement défavorable au retour du cumul des mandats. Je suis pour l'introduction d'une dose de proportionnelle pour l'élection des députés. Je suis pour les référendums parce que je considère
qu'on doit davantage
consulter les Français.
Le 31, s'employer le mot,
Moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est qu'on puisse, conduire une réforme d'abord de l'article 11 de notre Constitution
qui
restreint trop le champ du référendum. Il faudrait permettre le référendum sur des questions plus larges, des questions sociétales notamment. Moi, je serais extrêmement favorable à une ouverture, une révision constitutionnelle ciblée, comme on a fait pour l'IVG. Article 11, pour permettre au président de la République de davantage consulter les Français sur un plus grand nombre de sujets et faciliter le recours au référendum d'initiative partagée. C'est les deux choses. Et après, je souhaiterais des référendums sur des questions sociétales. La fin de vie, on n'en parle plus. Elle devait venir le 3 février à l'Assemblée nationale. Non, ça n'est pas trop compliqué. Les Français sont capables de décider.
Et
c'est quelque chose qui les concerne.
C'est surtout ça là.
On peut leur présenter. Mais vous savez, quand on pose la question et qu'on a... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le traité de Maastricht. Oui. Je ne sais pas si vous
en
souvenez.
C'était pas simple à lire.
Alors, la question de la fin de vie, ne me dites pas que c'est trop compliqué pour les Français. Fin de vie, service national. Est-ce qu'on doit recommencer un service national, militaire, civil, le SNU, etc. Je pense que c'est des questions qui intéressent les Français. En tout cas, moi, je souhaiterais qu'on les consulte sur des sujets qui les concernent.
Et les Français ne mangeraient pas d'Emmanuel Macron.
Qui les concernent.
Ça ne serait pas un anti-plébiscite.
Eh bien, pas sur ces sujets-là, d'accord. Justement. D'accord. Pas sur ces sujets-là, mais malheureusement, c'est difficile. On tutoie la limite de l'article 11. C'est pour ça que moi, je procéderai en deux temps. Révision constitutionnelle ciblée, puis référendum sociétal par la suite.
C'est très clair. Yael Braun-Pivet, vous avez décidé cette semaine de rendre public un combat personnel, intime, que vous avez mené contre un cancer du sein qui vous a été diagnostiqué il y a 3 ans. Désormais, vous êtes guérie. On voudrait comprendre pourquoi vous avez décidé de le révéler maintenant. Dites-nous.
Alors parce que justement, j'en suis guérie et c'était il y a 3 ans, donc je ne suis plus dans le combat immédiat contre la maladie. Parce que j'ai besoin d'être en sincérité et en vérité, comme je fais de la politique et je veux parler vrai à mes concitoyens. Et je trouve que c'était important de leur livrer cela. Et puis surtout, je voulais adresser aux femmes un message de prévention. Moi, j'ai parfois été négligente. J'ai laissé trop traîner, mais comme beaucoup d'entre nous. C'est la faute de personne, c'est la vie qui veut ça. On est pris dans nos vies, on se dit « je ferai ça plus tard ». Eh bien non, ne faites pas ça plus tard. Lorsque l'on fait son dépistage, au moment où on doit le faire, eh bien on a 90% de chances de guérir parce que c'est pris très tôt. Et plus on attend, plus c'est pris tard, plus on obère les chances de guérison. Et ce dépistage, nous avons la chance, dans notre pays, on parle souvent, voilà, de ce qui ne va pas bien dans notre pays. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir organisé un dépistage national, accessible à tous, gratuit. Et donc, moi, je dis aux femmes, en ce début d'année, au moment où on prend des résolutions, on fait Dry January, on se dit qu'on va faire un peu plus de sport, on se dit, eh bien, dites-vous cette année, en ce début d'année 2025, je vais faire mon dépistage. Cette enveloppe qui traîne sur mon bureau ou sur la table du salon, je m'en empare, je prends rendez-vous, j'y vais et je me fais dépister.
Et puis, c'est pas plus désagréable que de faire du sport. Enfin, c'est pas agréable, mais même moi, je m'y suis remise. Donc, Françoise aussi, Karine aussi.
Au sport,
donc,
voilà.
Allons-y, allez-y.
C'est vital. Voilà. Allez-y. Et vraiment, ça peut vous sauver la vie.
Merci, Yael Braun-Pivet. Évidemment, vous restez avec nous. Il est temps simplement d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécard.
Bonjour Christian Lebar.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur le plateau très féminin de questions politiques. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Rennes, auteur d'une 20aine d'ouvrages, dont le tout dernier qui est sorti cette semaine, jeudi, intitulé « Présidentiable » avec un point d'interrogation. Et c'est sorti aux presses universitaires de Rennes dans la collection « Épure ». Et vous tentez donc, dans ce livre, de nous expliquer quelles sont les règles qui définissent la présidentialité d'une personne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus apte que d'autres à devenir président de la République. En somme, est-ce qu'il faut avoir certains traits de caractère particuliers pour accéder à l'Élysée? Alors, vu publier ce livre, même si on est encore très très loin de la prochaine présidentielle, enfin normalement, mais en tout cas, ceux qui pensent déjà à la présidentielle, on peut dire qu'ils sont nombreux, les potentiels candidats. Est-ce que ça veut dire, ça, Christian Lebar, qu'aujourd'hui, tout le monde se croit potentiellement présidentiable? Est-ce que les règles de la présidentialité ont baissé dans notre pays?
Alors, il y a les règles juridiques que tout le monde connaît. Il faut avoir 18 ans, il faut être citoyen français. Il y a la procédure des 500 signatures, qui est quand même très sélective. Mais c'est vrai qu'une des lignes d'évolution, on parle de présidentiabilité depuis la réforme de 62, depuis qu'il y a une élection au suffrage universel direct du chef d'État, les règles ont quand même un peu... La définition du mot présidentiable a un peu évolué. Pendant très longtemps, on a enfermé le rôle d'un ensemble de stéréotypes. Les présidentiables, c'était surtout des hommes, il faut bien le dire, au début de la Ve République. Les présidentiables, c'était les leaders partisans, les grands noms de la vie politique, ceux qui animaient la vie politique. Et puis, voilà, c'était souvent des gens très diplômés, enfin, qui avaient toute une série qui étaient des professionnels de la politique depuis longtemps,
voilà, qui avaient franchi toute une série d'étapes,
les anciens premiers ministres, etc. Et on voit aujourd'hui que la catégorie s'ouvre un peu, se féminise potentiellement. On peut avoir des gens un peu extérieurs au champ politique dont on va tester la présidentiabilité par des sondages d'opinion. Donc voilà, on passe d'une société très 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 fermée, très solide, à quelque chose d'un peu plus ouvert que par le passé.
Est-ce qu'il y a un effet Macron, j'ai envie de dire, derrière tout ça? Est-ce que le fait que Emmanuel Macron, dont on ne pensait pas qu'il avait des qualités présidentielles, et qu'il l'ait remporté. Est-ce que ça a bouleversé, effectivement, ça?
Oui, oui, tout à fait. Parce
est-ce
que,
qu'on se sent plus capable aujourd'hui?
Alors, Emmanuel Macron ne tombe pas du ciel. Il avait un certain nombre de ressources politiques en 2017, et il avait un passé politique, mais c'est vrai qu'il n'apparaissait pas comme... Il n'était pas dans le paysage depuis si longtemps que ça. Il était jeune, il n'avait pas
de parti
politique. Donc, il y a un certain nombre de ressources classiques qui lui faisaient défaut, et malgré ça, c'est passé. Et puis, il y a aussi des exemples internationaux qui montrent qu'on peut, de Zelensky à Trump, hein, on peut conquérir un poste présidentiel, en jouant la carte de l'extériorité, dans un contexte qui peut être aussi un peu un contexte populiste, sur le mode « je suis extérieur au champ politique, je ne suis pas un professionnel de la politique ». Et là où, par le passé, c'était plutôt des handicaps, ça tend à devenir aujourd'hui quasiment des ressources sur le mode « je ne suis pas compromis avec ces gens-là, donc votez pour moi ».
Françoise,
est-ce que c'est pas le signe d'une déstructuration profonde du champ politique et de l'affaiblissement des partis ?
Si, tout à fait. Je le disais tout à l'heure, avant, pour être présidentiable, il fallait être à la tête d'un parti. Hein. Ça a été la stratégie de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, de François Mitterrand. Il y avait un cursus très classique, conquérir un parti et ensuite...
Mais ça reste quand même une affaire de professionnel.
Et ensuite devenir un candidat naturel. Aujourd'hui, on voit qu'on peut, sur la base d'une popularité très individualisée, d'une sympathie auprès de l'opinion publique,
on peut
tenter l'aventure. Et souvent, la création du parti politique, elle est ultérieure. Hein. Emmanuel Macron a créé un parti pour la campagne, Jean-Luc Mélenchon quasiment de même. Donc voilà, c'est plutôt la personnalité que
mais
le...
C'est quand vous parlez de popularité, là, c'est des gens qui ont une petite cote, mais vous ne trouvez pas que ça passe par la tête de tout le monde ? Même des gens qui n'ont pas de cote et qui sont... Genre, on a l'impression que tout le monde veut être président de la République, on ait fait quoi que ce soit avant, on se croit en mesure...
Des exemples, des noms, Nathalie...
J'en ai un ou deux, mais je ne les prononcerai pas.
Ça fait rire, il y a le monde vivant, en tout cas.
La réforme du quinquennat, déjà, fait qu'on est à peu près tout le temps en campagne présidentielle. Enfin, le système politique, hein, vous le savez mieux que moi, il est plus que jamais orienté sur l'élection présidentielle et elle seule, donc c'est vrai que... Et puis, il y a aussi le rôle des sondages d'opinion qui va aussi attiser cette obsession de la présidentiabilité en allant interroger les gens pour leur demander si tel ou tel, qui y pensait ou qui n'y pensait pas. Et ça peut être y compris des gens extérieurs au champ politique. On va s'amuser à les tester la popularité de gens qui ne font pas de politique.
Enfin, on va poser la question à la personnalité politique qu'on a sur notre plateau. Est-ce que vous y pensez parfois, Yael Braun-Pivet ? Est-ce que vous cultivez un caractère, un tempérament politique ?
Alors moi, je suis tombée dans la politique depuis 7 ans, comme vous le savez.
Peu plus, vous avez été militant PS.
2017, quelques mois, à Tokyo, à l'autre bout du monde, dans une section qui devait comporter une vingtaine de personnes. Donc je ne considère pas que je suis rentrée en politique à ce moment-là. Mais je suis rentrée en politique en exerçant un mandat en 2017. Moi, j'ai du mal avec le sujet professionnel de la politique. On est arrivé justement en 2017 en disant... en essayant de mettre fin à ces professionnels de la politique qui faisaient leur vie dans la politique. Moi, je considère que c'est très sain que des citoyens fassent de la politique. Ils en font tous les jours dans toutes nos mairies et ça peut être le cas au plus haut niveau. Donc moi, je ne disqualifierais pas des citoyens par principe dans la vie politique sous prétexte qu'ils n'en font pas depuis qu'ils ont 15 ans. Après, ce qui m'étonne parfois, et je ne citerai pas de nom non plus, c'est peut-être le même, c'est que s'imaginer président de la République
et le devenir,
et c'est quand même avoir charge d'âme de 68 millions de personnes, c'est quand même piloter le destin d'une nation, ça n'est pas rien, et c'est vrai que parfois on peut s'étonner que cette ambition soit dans la tête de certains.
Alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous abordez aussi la question de la primaire, qui ne fonctionne pas en France, ce qui permettait quand même de sélectionner sans se croire capable de devenir président, en tout cas en mettant tout le monde au sein d'un même parti, tous les candidats potentiels sur la même ligne de départ. Pourquoi ça marche aux États-Unis ? Pourquoi ça ne marche pas en France ?
L'histoire de la primaire en France, elle est assez curieuse, hein, puisque ça a marché d'une certaine façon. Ça a marché pour François Hollande, ça a marché, jusqu'à l'issue que l'on sait pour François Fillon. Donc il y a une dynamique très favorable à la primaire, autour de l'idée que justement, pour présidentialiser un candidat, il lui fallait quelque chose qui était une onction populaire et pas seulement des logiques d'appareil. Donc il y a eu, la mayonnaise a pris dans un certain contexte pour certains. Et puis, on sait bien qu'elle est retombée, ni Valérie Valérie Pécresse ni Anne Hidalgo n'en ont profité. Donc, je ne sais pas du tout ce que l'avenir nous réserve sur ce terrain-là.
Alors, Nathalie et Françoise veulent poser des questions. Il nous reste une minute.
Il faut des compétences et avoir fait éventuellement des études, voire éventuellement aussi avoir travaillé dans sa vie pour pouvoir être président de la République.
Vous êtes rosse. Et bah, Françoise, d'autres questions aussi, comme ça, il répondra aux deux en même temps.
C'est trop long.
Ok, dommage.
Non, c'est pas grave.
Alors, pour vous répondre, la France, manifestement, l'opinion publique française reste attachée quand même à l'idée que n'importe qui peut pas devenir président de la République et que, voilà, il y a des exigences de compétences, de capacités discursives. Voilà, un scénario à la Trump, encore une fois, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement extérieur au champ politique et qui n'a, même aux fonctions publiques, d'une façon générale, complètement extérieur à l'appareil d'État. On n'imagine pas ça en France.
Et c'est compliqué aussi pour les femmes. Hein. Les femmes, elles n'ont pas la place. Vous l'avez légèrement dit.
Enfin, elles ont des diplômes.
Elles ont des
mais
diplômes.
Ça vaut le jour d'un.
Elles sont aussi. Elles ont des longs cursus.
Ça évolue quand même.
Ça marche pas.
Le moment Ségolène Royal est un moment important, je crois. Voilà, où on n'a pas seulement une femme qui devient présidentielle, mais qui aussi joue la carte de la féminité. Donc les choses avancent quand même.
Bon, les choses avancent. Lentement.
Oui, lentement. Oui.
Répond Yael Bonne-Pivet qui a bien raison.
On part de tellement loin.
On part de loin. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci à Christian Lebar. Le titre de votre dernier livre, donc présidentiable, point d'interrogation paru aux presses universitaires de Rennes. Merci à vous aussi, Yael Bonne-Pivet, d'être venu dans Questions politiques ce dimanche. Merci à Fabienne Lemoyle et à Maury Baucher pour la rédaction en chef et pour la programmation. Belle fin de week-end à toutes et à tous. Je vous dis à la semaine prochaine.